ou d'utilisation des connaissances, le travail cognitif s'inscrit. Donc, c'est cette approche, ce principe consistant à mettre en avant la catégorie travail cognitif, avec toute l'importance qu'elle a et qu'on lui reconnaît, son caractère, on y verra, est un point de départ, mais c'est un point de départ qui n'est pas opérationnel, donc tant qu'on ne va pas du procès de production et de la place de la connaissance dans le procès de production. Donc c'est une idée qui est intéressante, qui est un point de départ, mais qui est limitée dans son opérationnalité. Pour l'instant, deuxième thème important que nous mettons en avant dans la thèse du capitalisme cognitif, c'est l'existence d'externalité. L'existence d'externalité, c'est un deuxième aspect de la connaissance, caractéristique que nous privilégions. Et nous avons insisté, Yann le premier, donc ici même, entre autres, donc nous avons insisté sur le fait que la connaissance est source d'effets externes importants. Alors, cela soulève deux catégories de problèmes. D'une part, je dirais, et puis deuxièmement, donc un problème sur le caractère peu opérationnel de cette approche. Alors, premier problème, le problème conceptuel, la notion d'externalité est empruntée à l'analyse microéconomique, je dirais, orthodoxe, elle est empruntée à l'univers marchand, et dire qu'il y a externalité, donc, c'est dire qu'il y a interaction entre deux biens, ou deux acteurs, ou deux lieux. Donc cela veut dire quelque part, cela suppose et cela signifie que les deux biens, ou les deux qualités, ou les deux lieux, ou les deux acteurs existent avec leurs caractéristiques, préexistent, et c'est à partir de cette existence et des interférences qu'il y a entre cette double existence que l'on parle d'externalité. Alors qu'en fait, au travers de cette notion d'externalité, on veut dire autre chose que cela. On veut dire autre chose. Alors on veut dire, alors je vais énumérer les quatre idées que l'on peut vouloir signifier et qui sont mal en fait représentées par le concept d'externalité. Première idée, l'idée de la non-appropriabilité de la connaissance, depuis 62, Cannet-Arrault, etc. Donc la connaissance n'est pas appropriable, l'information n'est pas appropriable, parce que le coût donc, de reproduction est en général un coût nul par rapport à son coût de production, etc. Bon, bref, donc ça c'est une première idée. Cette première idée de non-appropriabilité, elle est sûrement mal, disons, c'est pas ça que l'on peut effectivement traduire en termes d'externalité. Deuxième idée, l'idée de solidarité. L'idée qu'il existe une solidarité entre les agents cognitifs, entre les travailleurs cognitifs. Donc c'est une idée importante qui ne relève pas de l'externalité. La solidarité, c'est l'idée de complémentarité, c'est l'idée donc d'unité d'un ensemble d'individus. L'idée d'externalité, ce n'est pas ça du tout. L'idée d'externalité ne traduit pas, exprime mal, et même risque de cette idée de solidarité, si c'est celle-là qu'on veut exprimer. Vouloir exprimer, c'est l'idée d'indivisibilité ou de bien commun, ou de bien collectif. On peut vouloir dire pardon, que la connaissance est un bien collectif, et dans ce cas-là, là encore, disons, la notion d'externalité ne s'applique pas. Un bien collectif, c'est de l'usage duquel on ne peut exclure personne, a priori, donc l'idée d'externalité n'exprime pas du tout cette idée de bien collectif ou de bien commun. Bon. Et quatrième idée, et curieusement, je vais dire, je n'avais pas réalisé cela jusqu'à quelques jours, disons, c'est chez Veblen. Chez Veblen que l'on trouve cette idée que la connaissance a un caractère organique. J'avais assez lu Veblen, semble-t-il, et donc ça m'avait échappé. Mais Veblen donc a beaucoup ferraillé avec les auteurs néoclassiques de la Faverque, Fischer, Clark, à propos en particulier d'une discussion sur la nature du capital. Et l'argumentation de Veblen consistait à dire le capital n'a pas de valeur en dehors. Or, la connaissance que que l'on applique pour faire fonctionner donc les machines, les usines, etc., est une connaissance organique. C'est la société dans son ensemble qui est titulaire de cette connaissance, que de l'art, l'histoire des ingénieurs, l'histoire donc des connaissances techniques dans le pays. Et pour cette raison, donc, il ferraillait avec des auteurs qui défendaient l'idée de la productivité du capital, alors que lui disait ce qui est essentiel, c'est pas du tout cela. Disons, il n'y a pas de productivité du capital. La seule productivité, c'est la productivité de la connaissance d'emblée organique. Et donc cette idée d'organicité, également, c'est un peu comme l'idée de solidarité ou comme l'idée de bien collectif, si vous voulez, elle n'est pas du même ordre que l'idée d'externalité. Donc là, nous avons un premier problème sur les externalités. Alors, on a tendance à l'utiliser parce qu'elle est facile. Elle est facile et je dirais, à la limite, on se comprend entre nous. Mais elle est fausse. Elle est fausse, je crois. Disons, elle n'explique rien. Elle exprimerait même le contraire. Donc voilà ce que j'ai voulu souligner. Alors, deuxième point, donc, est-ce qu'on peut, à partir de cette idée, la connaissance, bon, c'est la solidarité, l'organicité, etc., voir les externalités, si on insiste, à partir de là, on peut aller vers une approche opérationnelle de la connaissance productive, de la connaissance comme facteur dans le fonctionnement du système productif. Alors, difficilement, je dirais, parce que si on part d'une vision organique, ça veut dire que la dimension cognitive n'est pas sociale, elle est d'emblée impliquée dans le collectif, elle est d'emblée holiste. On la situe au niveau social dans son ensemble, et on ne voit pas trop, si vous voulez, en partant de là, comment on pourrait être conduit à pouvoir aller, on pourrait aller dans la direction d'une opérationnelle du rôle de la connaissance dans la production. En tous les cas, ça ne suffirait pas. Donc, c'est un thème intéressant et important du capitalisme cognitif, mais ce n'est pas un thème qui permet de déboucher sur une analyse opérationnelle de la connaissance et de la production. Troisième dimension de la connaissance sur laquelle nous insistons, c'est la créativité. La créativité, donc Maurizio, par exemple, ici même ou ailleurs, même insiste beaucoup sur cette capacité créatrice. Alors, la créativité, donc, c'est un thème voisin de celui de la connaissance, mais le même thème, c'est pas tout à fait pareil. La créativité pure, disons, c'est-à-dire la créativité comme irruption du radicalement nouveau, nous entraîne du côté de l'irrationalité au sens de Schumpeter. Chez Schumpeter, l'innovation, c'est la rupture radicale. C'est la rupture radicale, donc c'est quelque chose, il le dit, il le souligne, quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de continuité entre l'avant et l'après. Il y a un avant, il y a un après, et on ne peut pas passer de l'un à l'autre, il y a une rupture. Donc il y a une irruption soudaine de la nouveauté. Et là donc, nous devons... il y a deux modèles, grosso modo, de créativité. Il y a un modèle causal, c'est-à-dire il y a un modèle de production de la nouveauté. Et si on a un modèle causal, ça veut dire que le passé explique l'avenir, et ça veut dire que quelque part le nouveau n'est pas totalement nouveau, que les ingrédients du nouveau préexistent, qu'il y a tout de même une solution de continuité permettant de passer de l'ancien au nouveau. Et donc, il peut y avoir une explication causale de la nouveauté. Je dirais que, pour ceux qui sont économistes et qui traitent de ces questions, l'approche créationniste est une approche causale génétique, disons. Pour une Piaget, un peu, c'est un peu l'idée. Causale génétique, c'est-à-dire que il y a tout et donc il y a une explication a priori possible du nouveau. Bon. Ou bien, alors ça c'est brutal et total de la nouveauté radicale, donc c'est le modèle schumpeterien, et dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas d'explication à la limite. Il n'y a pas d'explication possible de la nouveauté. On peut discuter sur ce que je veux dire à propos de Schumpeter, mais enfin bon, on y reviendra éventuellement. Ce qui signifie que si on est dans ce modèle de nouveauté radicale, absolue, brutale, si on est dans ce modèle de l'événement, c'est le modèle de l'événement il y a 20 ou 30 ans, si on est donc dans ce modèle de la de la nouveauté radicale, eh bien, disons, on n'est pas dans un modèle de la production, de la transcendance, mais il n'y a plus d'immanence de la production de nouveautés. Et donc, dans ce cas-là, si vous voulez, l'accent que l'on met sur la créativité, donc l'insistance que l'on met sur la créativité, si c'est sur la vraie créativité, eh bien, disons, cette insistance nous éloigne également de l'idée, du souci de pouvoir relier connaissance et production. Donc, ces trois points d'entrée, ces trois éclairages sur la connaissance, qui sont les trois éclairages, les trois accents que nous mettons sur la connaissance dans la thèse du capitalisme cognitif, eh bien, ces trois points d'entrée ne sont pas opérationnels, ne semblent pas opérationnels pour faire une analyse ou une théorie du rôle de la connaissance dans la production. Et donc, nous devons partir sur autre chose. Alors, question entre travail cognitif et puissance productrice. Alors, a priori, la montée du travail cognitif est un facteur favorable à l'accroissement de la puissance productrice lorsque, disons, ce travail cognitif sert à l'innovation. Hein, l'innovation, donc, permet de fournir des produits nouveaux, permet de fournir des biens et des services plus performants que les anciens. Donc, tout cela permet d'accroître la satisfaction des usagers, des consommateurs. Donc, a priori, tout cela est bel et bon. De même, si la connaissance est utilisée pour obtenir une meilleure adéquation entre les produits et les marchés, les produits et les utilisateurs, services et après-vente, une meilleure coordination entre une entreprise et sous-traitants, etc., pensez qu'il en résulte du mieux, hein, que les coûts éventuellement vont être plus faibles, donc les prix vont baisser, les biens vont être plus abordables, ou que leur qualité, le service rendu va être meilleur, etc., etc. Par ailleurs, la montée du travail cognitif est un phénomène qui peut être considéré comme positif et désirable en frise des individus. Elle valorise leur autonomie. Elle constitue un facteur libérateur et d'accomplissement personnel. Le développement du travail cognitif peut être considéré comme une source de satisfaction. Enfin, la capacité innovatrice n'est pas seulement du côté des producteurs, elle est aussi du côté des usagers. Les usagers ont aussi des capacités innovatrices, il y a pas mal d'usages nouveaux, d'innovations qui viennent des usagers. Les usagers ont parfois une capacité de contournement, de récupération d'un certain nombre de biens et de services. Et donc, il y a là aussi la puissance cognitive des usagers et leur capacité donc à produire, à tirer plus parti des biens et des services qui sont proposés. Donc, a priori, on peut penser que très naturellement, il y a une relation positive entre travail cognitif, développement du travail cognitif, montée du travail cognitif et puissance productrice. À l'examen, à mon avis, la relation est beaucoup plus complexe. Elle est beaucoup plus complexe, elle n'est pas linéaire et elle n'est pas simple. Et donc, il faut une analyse plus fine des fonctions du travail cognitif. Et je vous propose de distinguer quatre fonctions du travail cognitif. Première fonction, je suis dans les temps à peu près.
Oui.
Première fonction cognitive informationnelle qui est collectivement stérile, c'est-à-dire sans effet global, et cela parce que elle est consacrée aux stratégies concurrentielles. Quand deux groupes pharmaceutiques engagent des activités de R&D qui conduisent à la découverte de molécules analogues, sinon identiques, il n'y a pas deux fois plus d'utilité collective. Il n'y en a qu'une seule. Donc un phénomène de redondance dû à la concurrence crée évidemment un phénomène de gaspillage. Alors on peut revenir sur cet exemple. Par ailleurs, les activités cognitives de caractère stratégique, c'est-à-dire l'analyse de la concurrence que font toutes les firmes, les dépenses de marketing, publicitaires, etc. les activités destinées à affronter l'incertitude. Donc,